Alors aujourd'hui Anaïs, bonjour déjà.
Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous.
Aujourd'hui vous allez tisser des liens entre les historiens et le niveau des océans.
Absolument. Le rapport sur les océans des scientifiques du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le désormais familier GIEC, bien plus rapide, vient d'être publié. Vous vous y attendez, les nouvelles ne sont pas bonnes. Les scientifiques de l'ONU nous mettent en alerte, données à l'appui, sur l'accélération de la montée des eaux et des risques liés au changement climatique. Les villes côtières prennent acte depuis quelques années maintenant de ces dangers extrêmes et l'une d'entre elles, New York, a commandé un plan de construction de digues de verdure pour lutter contre le danger le plus imminent, la montée subite des eaux liées aux tempêtes et aux ouragans. Une réflexion engagée depuis l'expérience douloureuse de l'ouragan Sandy en 2012.
À New York, c'est une réalité difficile à ignorer. L'eau a toujours fait partie de l'histoire de la ville. Pour le meilleur et pour le pire. Tout le monde ici se souvient encore des ravages causés par l'ouragan Sandy. Le cœur financier de la ville n'a pas été épargné. L'eau s'est invitée jusque dans le métro.
Alors qu'à New York, on entasse des sacs de sable au sud de Manhattan sous les quolibets des mauvaises langues, le rapport du GIEC saisit d'effroi les climatos non sceptiques. Alors l'histoire peut-elle quelque chose dans cette affaire? Eh bien oui. Un groupe d'ingénieurs, d'historiens, d'archivistes et de citoyens concernés l'ont démontré. Si New York a connu Sandy, attention, je traverse l'Atlantique à très grande vitesse, les côtes charentaises ont connu la tempête Xynthia. Rappelez-vous, c'était en février 2010.
En Vendée, une digue a cédé sur la petite commune de L'Aiguillon-sur-Mer. L'eau s'engouffre dans les rues, les maisons, les habitants sont surpris dans leur sommeil. Certains doivent la vie aux secouristes, d'autres à un bon réflexe.
On est sorti par la fenêtre et on a nagé jusqu'à chez les voisins. Et là, tous les meubles flottaient.
C'est monté très vite, hein. très vite. En l'espace de quoi, un quart d'heure. C'était incroyable.
Au matin, la mer est partout.
Comme vous l'entendez, la tempête prend de court les communes du littoral charentais. Sidérés, les habitants et les médias invoquent la Bible et le réchauffement climatique pour trouver une explication à cette catastrophe qu'on pense sans précédent. Frédéric Surville, du groupe de recherche Submersion, s'agace et déroule une longue liste d'événements climatiques extrêmes comparables dans les zones sinistrées par Xynthia.
Oui, la liste est vertigineuse. Hein. 1788, 1924, 1935, 1941, 1944, les inondations côtières étaient vraiment monnaie courante.
Les membres du groupe de recherche Submersion rassemblent toutes les données météorologiques disponibles depuis le XVIIIe siècle et parcourent les journaux, les mémoires, les récits intimes qui font état d'expériences similaires. Sans relativer l'importance du réchauffement climatique, il démontre que la piste remonte jusqu'au petit âge glaciaire. Surprise donc, les submersions de leur série ne sont pas mécaniquement liées au réchauffement de la planète, mais ce cadre d'interprétation répondait tellement bien aux inquiétudes naissantes liées à la crise climatique que celle-ci l'avait absorbée dans la confusion et l'incompréhension du moment. C'est bien l'oblitération d'une certaine mémoire collective que l'on pouvait incriminer. Cette amnésie s'explique en partie. Les submersions du littoral atlantique se sont interrompues de la fin des années 50 jusqu'au début de notre siècle. Et la dernière catastrophe du genre, c'était en 1957, n'a fait aucune victime si ce n'est quelques moutons. Pourquoi ? Parce que les zones inondables par Xynthia n'étaient pas habitées et ça n'était pas le fruit du hasard. Alors que les villages anciens étaient bâtis à 2 ou 3 km du littoral dans les années 80-90, avant les années 80-90, à ce moment-là, on multiplie la construction de lotissements les pieds dans l'eau, une jolie proximité qui enterre la mémoire des risques, une vision idyllique du balnéaire qui a enterré la peur quotidienne domestiquée des habitants côtiers et avec elle des systèmes de vigilance et d'alerte qui avaient fait leurs preuves. Ce rapport d'enquête du groupe Submersion, dirigé par l'historien Emmanuel Garnier, est en accès libre sur le net.
Oui, bah vous pouvez le consulter via la page du journal de l'Histoire sur le site franceculture.fr. Merci Anaïs.